La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Ils sont archéologues, ils travaillent dans les pays en guerre ou sur des terrains qui ont connu des conflits dans le passé. Comment travaillent ces scientifiques pour mener leurs recherches dans les zones les plus dangereuses du monde et pour tenter de protéger le patrimoine archéologique qui part en feu sous leurs yeux? Quelles sont aussi les méthodes de travail qui sont utilisées pour faire remonter les vestiges de l'histoire? C'est ce que nous allons voir avec mes invités qui travaillent dans deux domaines de l'archéologie, l'un autour du Yémen, dans un pays très difficile d'accès pour les chercheurs, et l'autre sur des chantiers de fouilles de la Grande Guerre en France. Vous pouvez leur poser toutes vos questions dès maintenant en nous retrouvant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, l'éruption du volcan de feu au Guatemala.
Oui Mathieu, le Fuego a surpris tout le monde dimanche. Le bilan est pour l'instant de 69 morts, mais les autorités craignent qu'il ne s'alourdisse. On ausculte le volcan le plus dangereux de la planète avec Arnaud Guérin qui est géologue dans un instant.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouvons le rendez-vous science grand format de France 5 avec un documentaire consacré ce soir à la star des dinosaures, le T-Rex. Fanny Boyon réalise cette tête au carré, préparée par Chantal de Montagnier avec Hannibal Wachi.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Guerre et archéologie sera donc le thème de notre dossier dans quelques minutes avec mes invités que je salue, Jérémy Chitocat et Gilles Prilot. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue. Vous travaillez, comme on va le voir, donc dans deux domaines différents de l'archéologie. Jérémy Chitocat autour du Yémen, pays en guerre où un fabuleux patrimoine archéologique est menacé ou détruit, avec des sites pourtant qui ont marqué l'histoire. Hein.
On a un patrimoine plurimillénaire, c'est le pays de la reine de Saba, là, un personnage mythique qui excite un petit peu l'imaginaire. Et ce patrimoine aujourd'hui est bombardé, détruit par un conflit qui sévit dans le pays depuis plusieurs années.
On va voir avec vous comment on peut travailler justement dans un pays comme le Yémen, dont on parle très peu d'ailleurs sur le plan archéologique. Gilles Prilot, vous avez mené des fouilles sur les terrains de la Grande Guerre en France. Là aussi d'ailleurs, ça n'est pas sans danger hein, pour les archéologues.
Oui, oui, tout à fait. Il faut bien avoir à l'esprit que à l'heure où on parle, il reste encore entre 150 et 200 millions d'obus non explosés sur le champ de bataille du front d'Ouest. Donc on ne peut pas intervenir sur les terrains sans avoir pris en compte cette donnée importante.
Voilà, mais ça vaut le coup d'intervenir, on le verra, pour des découvertes extraordinaires dont ces graffitis et bas-reliefs de la Grande Guerre que vous avez découverts justement dans les Hauts-de-France. On en discute avec vous d'ici quelques minutes et puis les auditeurs nous rejoignent avec les questions et les messages sur le site de La Tête au Carré. Pourquoi l'éruption dimanche du volcan Fuego au Guatemala a-t-elle été si meurtrière? On tente de comprendre aujourd'hui à la une de la science.
Les maisons étaient secouées, elles semblaient arrachées de leurs fondements et oscillaient de droite et de gauche. En terrain découvert, au contraire, pleuvaient des fragments de pierres ponces, légers et poreux certes, mais qui semblaient redoutables. On se pose sur la tête des oreillers, retenus par des linges, ce fut leur protection contre tous ces projectiles. C'était le jour, mais tout alentour, une nuit, épaissie par la cendre, régnait.
Voilà, ça ce sont les lectures de Pline le Jeune qui raconte l'éruption cataclysmique du Vésuve en l'an 79 et un peu moins de 2000 ans plus tard, dimanche dernier, l'éruption du volcan Fuego au Guatemala n'était pas de la même ampleur, mais les vagues de cendres brûlantes qui ont dévalé les pentes de la montagne étaient très similaires. Ces nuées ardentes sont rapides, impitoyables et responsables de la majorité des morts comptabilisées par les autorités depuis deux jours. Axel, avec notre invité, donc on décrypte cette éruption au Guatemala.
Oui Mathieu, nous partons à Caen en direct des studios de France Bleu Normandie pour retrouver le géologue Arnaud Guérin. Bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour le bureau d'études Lithosphère et vous étiez le mois dernier au Guatemala sur les pentes du volcan. Justement, comment est-ce que vous avez vécu cette éruption au loin alors que les villages que vous veniez de visiter étaient touchés?
Eh bien, écoutez, c'était très particulier parce que d'habitude on va sur les volcans uniquement pour faire de la science et là, on venait de tourner un documentaire avec ces communautés qui vivent au pied du volcan Fuego, justement sur la gestion du risque, et on travaillait avec les volcanologues guatémaltèques et les volcanologues anglais sur juste cette gestion du risque pour ces populations, puisque au pied du volcan Fuego, il y a 60 000 personnes qui sont directement concernées par l'activité du volcan.
Qu'est-ce qui permet de comprendre l'ampleur des dégâts de ce week-end, de dimanche, alors que l'éruption dimanche n'était pas vraiment une grosse éruption, hein?
Non, en fait, c'est un phénomène qui est le plus dangereux sur les volcans, qui s'appelle les nuées ardentes ou coulées pyroclastiques, qui sont en fait des avalanches de gaz extrêmement chauds, jusqu'à 700 degrés, qui peuvent descendre à des vitesses de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres par heure, et qui descendent dans tout le réseau de drainage qui entaille les flancs du volcan. Et là, ça a été le cas sur cette zone qui est très densément peuplée, puisque ça a coupé la route nationale entre la Panaméricaine et la capitale Guatemala Ciudad, et ça a touché ces communautés qui vivent à vol d'oiseau entre 6 et 9 kilomètres du cratère du volcan.
Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs il y a un mois lorsque vous étiez sur place, Arnaud Guérin, ou pas?
Alors, il y avait des signes vraiment avant-coureurs, puisqu'il y avait entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 éruptions par heure, c'est-à-dire des explosions avec projection de matériel volcanique, de lave. Mm-hmm. Et puis, le départ, je me souviens encore, j'étais dans les rues d'Antigua, donc l'ancienne capitale du Guatemala, qui est à une vingtaine de kilomètres du volcan, et j'étais dans la rue et je voyais partir des petites nuées ardentes qui partaient justement dans ces canyons de drainage, et on se disait avec les volcanologues sur place que le risque était vraiment un risque majeur.
Arnaud Guérin, combien il faut quand on habite à 8 ou 5 kilomètres, comme vous le disiez, de temps entre le début de la grosse éruption et l'arrivée de ces nuées ardentes ?
Alors c'est là tout le problème. En fait, il faut simplement quelques minutes. Donc tous les exercices d'évacuation, et on a participé à des exercices d'évacuation qui sont mis en place par la sécurité civile sur les flancs du volcan. Le problème, vous imaginez bien, quand vous avez un village de plusieurs centaines d'habitants, c'est de pouvoir organiser les choses pour que les gens puissent se mettre en zone sûre. Donc c'est-à-dire dans des zones qui ne sont pas touchées par les phénomènes ou qui sont peu touchées par les phénomènes. Et donc en fait, il faut bien comprendre que le terrain est fait de canyons et de villages qui sont entre les canyons. Donc les gens, quand ils évacuent, ils sont obligés de traverser ces canyons et c'est ce qui donne cette vulnérabilité pour les populations qui vivent là.
D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on a vu des images assez impressionnantes qui arrivent depuis dimanche. Des gens qui prennent le temps de filmer ces nuées ardentes alors qu'elles sont en train d'arriver sur eux. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu des prises de risque importantes avec ces réseaux sociaux ?
Ah, c'est totalement incroyable de voir ça. Vous avez passé un extrait sonore qui concernait l'éruption de Pompéi. C'est ces phénomènes qui sont en jeu. C'est des phénomènes qui sont encore une fois les plus destructeurs sur les volcans. Et on avait des gens qui étaient là en train de filmer ça, de voir ces nuées ardentes arriver à quelques... là, c'était pas des nuées ardentes très rapides, à quelques dizaines de kilomètres heure, voire une petite centaine de kilomètres par heure, et qui fuient au dernier moment. Et vraiment, là, on voit toute la vulnérabilité de la population. Mais au Guatemala, par exemple, les routes nationales sont obligées de passer au pied des volcans et très proche de ces volcans. Donc on a un risque maximum.
Si ce volcan est connu pour être dangereux et très actif, pourquoi il y a tant de monde qui habite autour et depuis très longtemps d'ailleurs ?
Alors en fait, c'est toujours cette espèce de dichotomie qui existe sur les volcans. Les volcans sont des reliefs, le climat y est favorable. Là, on est au bord de la côte du Pacifique. En bas, il fait très chaud. Sur le flanc du volcan, le climat est plutôt tempéré. Le sol est fertile. Il y a de l'eau, donc il fait bon vivre. Mais ce que vous donne le volcan, il peut vous le reprendre en quelques secondes. Et c'est ce que malheureusement ces communautés viennent de vivre d'une manière extrêmement dur.
Une dernière question, Arnaud Guérin. Beaucoup de cendres ont été déposées dans les vallées, vous l'avez dit, avec ces nuées. Est-ce qu'il y a des risques particuliers avec cette accumulation de matériel ?
Alors c'est vraiment le grand risque. Au-delà de cette première catastrophe, il va y avoir ce qu'on appelle des risques secondaires, c'est-à-dire que les pluies qui sont très fréquentes dans cette région du Guatemala vont emporter ces centaines de milliers de tonnes de matériaux qui ont été déposés dans les vallées, ce qui va générer des coulées de boue qu'on appelle en volcanologie des lares, et c'est ce qui est vraiment l'enjeu majeur pour ces populations, puisque des villages entiers, voire des villes, peuvent être détruites à plusieurs dizaines de kilomètres du volcan. Donc c'est ce qui attend les populations locales et c'est sur quoi travaillent les scientifiques localement, en particulier en utilisant des drones qui permettent de cartographier et de connaître les volumes de matériaux qui ont été émis lors des éruptions.
Merci beaucoup pour ces précisions, Arnaud Guérin, vous qui rentrez donc du Guatemala juste avant l'éruption. C'était aussi le hasard du calendrier pour vous, volcan Fuego. Merci beaucoup, merci aux équipes de France Bleu
à
Caen.
Vous.
Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, à la recherche de la nouvelle particule, des physiciens de l'Illinois aux États-Unis pensent avoir mis au jour l'existence d'un neutrino stérile, une particule élémentaire jamais observée auparavant. Dans les détails, il serait 50 000 fois plus petit qu'un photon et jouerait le rôle d'intermédiaire entre trois formes de neutrinos déjà connues à ce jour. Les physiciens ne sont toutefois pas encore prêts à officialiser leur découverte car des doutes subsistent, prudence oblige, mais l'excitation est à son comble. La dernière particule élémentaire découverte est le boson de Higgs en 2012 au CERN de Genève. À Madagascar, une espèce de grenouille toxique inquiète sérieusement les biologistes. L'amphibien avait été observé pour la première fois dans l'un des plus grands ports de l'île en 2014. Il représente aujourd'hui un réel danger pour la biodiversité locale. S'il appartient et s'il continue à prospérer, plus d'une centaine d'espèces uniques de Madagascar, parmi lesquelles le lémurien, sont menacées par le poison de la grenouille lorsqu'elle est mangée. Les biologistes pressent le pays de déployer un programme d'éradication contre l'espèce. Et puis la musique peut faire danser, chanter, mais également sauver des vies. Des chercheurs espagnols ont cherché à savoir si le tempo du tube, la Macarena, pouvait être un bon moyen mnémotechnique pour pratiquer un massage cardiaque. Résultat, eh bien, le tempo aiderait trois quarts des personnes à réussir leur massage, contre un quart seulement pour ceux n'utilisant aucune astuce. Si la musique du groupe Los del Rio ne vous revient pas en tête, nous avons mis pour vous le clip sur notre page Facebook. Hey, Macarena. Voilà, et dans un instant, c'est l'archéologie de la guerre.
I want to know. Baby.
La voix de Fatoumata Diawara avec Enterini sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
L'archéologie sur les terrains de la guerre, c'est donc le dossier de l'émission cet après-midi pour comprendre comment travaillent les scientifiques dans des lieux difficiles d'accès ou dangereux pour les équipes. Jérémy Schittkat, vous êtes archéologue spécialiste du Yémen, chargé de recherche au CNRS et vous êtes co-auteur d'un livre, Yémen, terre d'archéologie, qui a été publié en 2016 aux éditions Göttner avec Guillaume Charlot. Gilles Prilot, vous êtes archéologue à l'EPCC, Somme Patrimoine, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage Graffiti et bas-reliefs de la Grande Guerre, archives souterraines de combattants. Ça, ce sont des découvertes que vous avez effectué. Ce livre est sorti aux éditions INRAP et Michelon, et les auditeurs donc nous rejoignent avec les questions, bien sûr, les messages franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Jérémy Schittkat, vous êtes donc spécialiste d'une région, d'une période particulière. Est-ce que d'abord tous les archéologues se spécialisent dans des périodes et des zones du monde? Comment ça se passe? Alors,
pas nécessairement. Il y a des archéologues effectivement qui sont spécialisés sur une ère géographique, sur une période chronologique, et puis il y a à côté de cela, des archéologues qui sont spécialisés sur des techniques, soit des techniques de recherche, soit des techniques passées, spécialistes du débitage lithique, de la métallurgie ancienne. Donc, à chacun, disons, sa spécialité. Et puis, nous travaillons ensemble, justement, sur des terrains étrangers.
Qu'est-ce qui vous a emmené sur le Yémen, alors vous en particulier?
Un petit peu le hasard des circonstances, au détour d'un couloir, une collègue qui m'a d'abord emmené travailler aux Émirats Arabes Unis quand j'étais jeune étudiant, et puis ensuite de fil en aiguille, un autre collègue qui m'a emmené dans ses bagages au Yémen. Et puis après, le Yémen, c'était une découverte formidable, c'est un pays qui ne ressemble à aucun autre, et là, je m'y suis engagé pour une quinzaine d'années, et puis depuis maintenant 8 ans, on ne peut plus y aller.
Alors c'est ça, c'est très compliqué pour vous qui êtes spécialiste précisément de ce pays, parce que les archéologues ne peuvent plus retourner sur le terrain, et c'est beaucoup trop dangereux de toute façon.
Alors c'est très dangereux depuis 2010, c'est-à-dire qu'il y a un conflit ouvert depuis 2015, mais déjà avant il y avait une menace qui était une menace principalement terroriste, islamiste, qui pesait sur les étrangers qui circulaient au Yémen, et donc depuis 2010 il n'est plus possible de se rendre sur ce terrain de recherche, malheureusement.
Et donc oui, pour vous, qu'est-ce que ça représente alors du point de vue de vos recherches, cet empêchement?
Ça représente, j'allais dire malheureusement, une opportunité, qui est celle de publier ces données qui ont été accumulées pendant des années sur le terrain, parce que les archéologues ont souvent quelques casseroles, ils accumulent beaucoup de données, ils fouillent beaucoup.
Ah, c'est pas des casseroles, c'est du retard.
C'est du retard, ils tardent à publier, donc c'est l'occasion, disons, de publier, de retrouver parfois des trésors dans nos archives photographiques, notamment quelques inscriptions assez uniques qui ont été retrouvées de photos que j'avais pu prendre en 2004. Et puis, à côté de ça, malheureusement, c'est aider les yéménites, spécialistes, archéologues qui sont encore sur le terrain à préserver leur patrimoine et puis à éteindre l'incendie.
Oui, donc là, c'est un travail de soutien que vous faites à distance avec vos confrères.
Voilà, c'est ça. C'est de la formation à distance, de l'apport d'outils, de l'apport de moyens avec l'aide de l'UNESCO, avec l'aide d'un certain nombre d'organismes internationaux et puis d'organismes de recherche en Europe, aux États-Unis.
Gilles Prilot, alors de votre côté, vous vous êtes spécialisé dans la Grande Guerre?
Eh bien, un peu par hasard également, c'est-à-dire que je fouille depuis une trentaine d'années. Ma formation initiale a porté sur l'étude de ce vestige gaulois et gallo-romain, et puis à partir des années 90, il y avait cette couche un petit peu gênante qu'on retrouvait régulièrement dans nos interventions, qui étaient ces vestiges de la Grande Guerre, qu'on écartait, qu'on ne prenait pas la peine de cartographier, d'enregistrer. Des vestiges perturbateurs. Et à partir du milieu des années 90, avec quelques collègues, notamment des archéologues comme Yves Desfossés, Alain Jacques, ont été les premiers à asseoir les premiers fondements scientifiques de cette discipline, on a commencé à les enregistrer et à y voir un intérêt, notamment par rapport au traitement de la mort de masse. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui, il y a encore 700 000 corps qui sont restés sur le champ de bataille. Donc cette étude de la gestion de la mort de masse est vraiment très très intéressante. Et puis, sous ce champ de bataille, il y a aussi un patrimoine enterré, souterrain, où les soldats ont cantonné, ont stationné, ont fait du tourisme parfois, et ont laissé des traces. C'est un patrimoine vraiment extrêmement riche et intéressant.
Quelle est d'ailleurs l'ampleur de la terre justement qui enferme ces archives et ce patrimoine archéologique?
Alors il faut avoir l'idée que le champ de bataille représente une forteresse enterrée qui s'étend sur 700 km de long, sur plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur par endroit. 4 millions d'hectares de terres agricoles ont été ravagées à la fin de la guerre.
Complètement retournées, hein, évidemment, ça a été des sols qui ont été complètement pulvérisés.
4000 villages endommagés, 620 villages entièrement détruits, 60 000 kilomètres de voies ferrées et de routes à rétablir. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement important en termes d'impact dans le sol et dans le sous-sol.
Ouais. Et parmi les découvertes, on va en parler avec vous donc tout à l'heure, c'est graffitis et bas-reliefs qui sont saisissants, hein, quand on voit vraiment les documents photographiques de votre ouvrage. C'est absolument étonnant et très émouvant à la fois de voir tout ce qui a été inscrit. C'est de l'art pariétal, hein, finalement. Hein.
Complètement, et je l'ai pris comme ça. C'est-à-dire que ma première approche, quand j'ai découvert ces premiers graffitis dans la cité souterraine de Naour, franchement, j'étais comme un archéologue devant des hiéroglyphes. Hein, je comprenais pas bien les codes. VIC, AIF, PTE, tous ces mots étaient un peu étrangers pour moi. Et voilà, et en quelques mois, et au bout de 4 ans, maintenant, c'est devenu un langage courant.
Absolument. Vous essayez de déchiffrer aussi encore, évidemment, avec toutes ces pièces que vous retrouvez. Jérémy Chidcat, retour avec vous donc au Yémen. D'abord, pourquoi est-ce qu'on parle aussi peu de ce pays, du point de vue de son patrimoine, de ses richesses archéologiques, alors qu'on a tant évoqué l'Irak ou la Syrie?
Alors, on peut imaginer plusieurs réponses. D'abord, c'est l'éloignement. Il faut peut-être replacer un petit peu le cadre. Le Yémen, c'est un pays qui se trouve au sud de la péninsule arabique, au sud de l'Arabie Saoudite, qui est grand comme la France.
À la pointe, hein, finalement.
À la pointe, voilà. On parle d'Arabie du Sud pour les périodes plus anciennes. Il y a l'éloignement déjà de ce pays. Je pense que l'Irak, la Syrie parlent plus dans l'imaginaire collectif en France que le Yémen. Le second point, c'est que c'est un conflit qu'on a souvent qualifié de conflit oublié, à tort ou à raison. C'est un conflit qui intéresse assez peu, qui, à part la sphère politique, qui met en branle, disons, des acteurs en arrière-plan, qui sont l'Arabie Saoudite, l'Iran. C'est un pays, disons, où le patrimoine suscite assez peu d'idées également. Ce ne sont pas des vestiges aussi importants que ceux qu'on peut trouver en Syrie, en Irak, que l'on va voir dans nos musées, en Europe, par exemple. Oui. On ne retrouve pas non plus ces vestiges hellénistiques et romains qu'on va retrouver en Syrie, en Irak. Et donc, c'est quelque chose qui est exotique, éloigné. Puis le Yémen, on imagine souvent que c'est un désert. On a du mal à percevoir aussi la richesse patrimoniale de ce pays.
Alors, il y a plein d'images qui vont nous revenir au fil de nos propos. Il y a la ville de Shibam, par exemple, une ville emblématique avec ce Manhattan du désert qui est absolument stupéfiant de beauté.
Alors Shibam, c'est un site, alors il est tellement beau qu'il a été classé effectivement au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site de maisons-tours en briques crues qui ont été regroupées en forme rectangulaire. On a l'impression d'une citadelle au milieu d'une grande vallée qui est la vallée du Hadramaout. Citadelle qui est entourée de verdure puisqu'elle vit d'agriculture irriguée, donc il y a toute une oasis de verdure qui se crée autour et ça donne un paysage tout à fait magnifique. C'est une ville qui existait déjà dans l'Antiquité, on le sait par des textes sud-arabiques et qui étaient.
Ces buildings de terre ont été érigés déjà à l'époque.
Alors la difficulté, c'est de savoir à quoi elles ressemblaient à l'époque. Évidemment, les bâtiments que l'on voit actuellement sont des bâtiments qui sont beaucoup plus récents, qui sont du 18e, du 19e, du 20e siècle, qui sont encore habités, qui sont encore entretenus aujourd'hui. Évidemment, on ne sait pas exactement l'allure que ça pouvait avoir dans le passé, mais la fouille d'autres sites nous a montré que l'architecture locale, ce sont les maisons-tours, à savoir des bâtiments qui sont sur un socle de pierre et puis plusieurs étages au-dessus, 5-6 étages, avec des murs montés en briques crues. Et donc, on a ces impressions, effectivement, de building, Manhattan du désert.
Est-ce que cette ville extraordinaire a justement subi les attaques ou pas?
Alors, ça a été une des victimes collatérales de plusieurs conflits qui sévissent au Yémen et de plusieurs raisons de destruction. Ici, elle a subi, disons, les conséquences d'un attentat à la bombe, d'un camion piégé qui a explosé sur la route auprès d'un checkpoint de l'armée qui se trouvait en bordure de cette ville. Et donc, le souffle de l'explosion a causé d'importants dégâts dans les structures en briques crues, les fenêtres également qui sont en fait des panneaux de bois sculptés qui ont été éclaté sous le souffle de l'explosion. Donc oui, les bâtiments se sont fissurés. Il n'y a pas eu d'effondrement de structure, mais beaucoup de dégâts dans la structure.
Parmi des bâtiments très anciens et très précieux aussi du patrimoine archéologique yéménite, le barrage de Marib, on va retrouver la voix de Daniel Mermet, qu'on a beaucoup longtemps entendu évidemment sur France Inter. Là-bas, si j'y suis, c'était en 1997 à l'occasion justement d'un reportage sur place.
Là, on est vraiment au milieu de nulle part, à côté de Marib. Quand on dit nulle part, c'est pas tout à fait vrai, parce que là-bas, il y a l'ancienne ville de la reine des Sabas. L'histoire des barrages ici est primordiale, c'est ce qu'on va essayer de nous faire raconter par le cheikh qui est là.
Le bâtiment que vous voyez ici.
Ah, c'est-à-dire ces traces des pierres, des soubassements.
Ça, c'est la muraille qui entourait la vieille ville de Sabah.
هذاك بوابة شمالية.
Là-bas, il y a la porte du nord.
Viljabal, viljabal. نفس الجبل.
Regardez dans la montagne. Dans la montagne même.
وهذه فتحات.
Et ici, il y a des ouvertures.
وهذه.
Et l'eau venait de là.
يجي هنا من بين الجبلين.
L'eau arrivait d'entre les deux montagnes.
ويخرج منها نفق.
Il y avait un tunnel aussi qui allait jusqu'au temple du soleil.
Ah, il est là-bas.
Et on dit dans les histoires que la reine Belkis allait comme ça dans ce tunnel.
مره واحده في العمر مش كثير يعني بصراحه.
Et quand nous étions petits, nous arrivait de trouver des pièces en or ici.
ما سكن فيها غير السبائيين.
Ça date de l'époque des Sabaïens parce que après les Sabaïens, personne n'est venu habiter ici.
Voilà, Daniel Mermet, en 1997, au Yémen, autour du barrage de Marib, Jérémy Chitkat. Alors, c'est un lieu qui a été bombardé hein, par la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Et c'est un barrage extraordinaire. Hein. Le plus ancien, d'ailleurs, au monde.
C'est une structure unique. C'est... Alors, je ne connais pas la Chine, où il y a certainement des structures assez monumentales. Mais en tout cas, pour l'ancien monde méditerranéen et proche-oriental, c'est la structure la plus ancienne, le plus ancien barrage que l'on connaisse. Il faisait 700 mètres de longueur, donc c'est colossal.
C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait ce souci, évidemment, de la maîtrise de l'eau dans ce pays difficile.
Exactement. On est en bordure du désert. Alors, le Yémen, c'est un pays à la fois de montagne, avec des pluies de mousson, où le paysage a été sculpté depuis 5000 ans en terrasse. Et puis, en aval, en bordure du désert, eh bien, les eaux des moussons s'écoulent sous forme de crues assez violentes. Et les populations, depuis 3000-3500 ans, ont appris à dompter ces crues par la construction de murs de dérivation, de barrages. Et puis l'exemple le plus monumental, c'est ce barrage de Mareb, qui était décrit donc par ce cher de Mareb de manière assez amusante. Mais quand il parlait d'une porte nord et d'une porte sud, c'était pas infondé, parce qu'il y a effectivement deux exutoires à ce barrage, qui canalisait l'eau vers l'oasis, et qui sont des structures qui font une centaine de mètres de longueur, en pierre de taille, qui font 15 à 20 mètres de hauteur, donc un ensemble monumental colossal.
C'est une des pièces majeures du pays qui a été bombardée, donc ?
C'est une pièce majeure qui a été bombardée. Alors, je parlais tout à l'heure d'une explosion sur un checkpoint, là c'est la menace terroriste. Ici, on est dans une autre source de destruction du patrimoine, qui est le conflit depuis 2015. Donc, conflit qui s'est internationalisé avec l'entrée en jeu d'une coalition menée par l'Arabie Saoudite et des bombardements aériens qui sont le fait de l'aviation saoudienne sur des bâtiments antiques et notamment sur ce barrage de Mareb, ce qui est assez étonnant puisque ce barrage se trouve actuellement au milieu de nulle part et on peine à cerner
les raisons. Donc c'était volontaire évidemment de la part de l'Arabie Saoudite.
C'est difficile de s'engager sur ce point, mais je ne vois pas qu'est-ce qui a pu les amener à bombarder cette structure isolée.
Que peuvent faire les archéologues alors dans ce cas précis par exemple ?
On ne peut malheureusement que recenser les dégâts. Il y a une grande difficulté, ne serait-ce qu'à l'intérieur du Yémen, à communiquer. Le service des antiquités qui est encore actif à Sanaa essaie d'avoir des relais sur le terrain, mais ils sont assez limités. Et donc, eh bien, on a par le biais maintenant des téléphones portables, des photos qui remontent et on peut simplement faire l'inventaire et puis ensuite essayer de sensibiliser l'opinion publique, les organisations internationales à ces problèmes pour ensuite envisager ce qui pourrait être fait dans une période d'après-conflit.
Allez, on revient vers vous dans un instant pour la suite de ce dossier autour de l'archéologie sur les lieux de guerre avec les messages des auditeurs et les questions sur franceinter.fr.
Laisse-moi rire, tu croyais ma voix.
Erreur 404, c'était l'impératrice.
La tête au carré. Sur France Inter.
Gilles Prilot et Jérémy Chitkat pour nous parler de l'archéologie de la guerre. Premier exemple avec le Yémen. On va parler ensuite de la Grande Guerre, justement, avec le terrain français. Encore un mot, justement, sur le Yémen, Jérémy Chitkat. Parce que parmi les effets collatéraux, justement, de la guerre, il y a le pillage aussi, hein, du point de vue archéologique, qui est absolument catastrophique dans ces pays.
Il y a le pillage qui a atteint un niveau quasi industriel, qui s'est systématisé dans certaines régions, qui était déjà présent avant le conflit. C'est un problème beaucoup plus ancien, oui. Qui était présent dans des régions où le gouvernement central n'avait aucune prise. Des régions qui n'ont pas de ressources économiques autres que ce pillage et qui ont très bien compris la valeur des objets que recelait le sol. Et donc, ça alimente un trafic vers les pays du Golfe, principalement. Ça alimente des collections prestigieuses dans les pays du Golfe. Et puis, au-delà, des pièces ont été saisies à Genève en décembre 2016 également.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on est archéologue, spécialiste d'un pays comme ça et qu'on voit partir les objets ou qu'on les voit détruire sous ses yeux?
C'est un gâchis énorme parce qu'on perd non seulement l'objet qui peut disparaître, mais on perd aussi le contexte de l'objet. Et c'est aussi ce qui nous intéresse quand on fait des fouilles, c'est de retrouver les objets dans leur contexte pour pouvoir en comprendre à la fois le cadre chronologique, la fonction de ces objets, essayer de déterminer les modes de production des objets. Donc ici, on perd tout ce qui entourait à la fois l'histoire de cet objet et puis l'objet en lui-même.
Ouais. Les archéologues yéménites, donc, qui vivent sur place, ne peuvent pas travailler non plus du tout. Ils ont quand même un petit peu accès à certains terrains de fouilles.
Ils ont continué à travailler jusqu'au début du conflit, jusqu'en 2015. Il y avait une fouille yéménite, principalement, active. Depuis le début du conflit, non, ça n'est plus possible. Donc, ils se déplacent au gré de découvertes fortuites, éventuellement, pour récupérer des objets, faire une petite fouille rapide, une fouille préventive. Mais l'action reste extrêmement limitée parce que c'est quasiment impossible de se déplacer dans le pays. Et puis, au-delà, il y a les problèmes du manque d'électricité, de carburant, problèmes d'alimentation qui sont beaucoup plus généraux ici.
Alors, le lien intéressant, justement, avec Gilles Prilot, pour parler de la Grande Guerre, c'est de pouvoir envisager quand même la fin du conflit pour vous. C'est-à-dire, comment on va pouvoir, justement, retravailler ensuite quand, un jour, on l'espère le plus tôt possible, la guerre sera terminée?
Oui, mais là, on voit avec le recul les effets de la Grande Guerre sur des terrains qu'on souhaiterait étudier, à savoir le bombardement de ces terrains. Ces terrains, là, actuellement, au Yémen, les terrains sont minés, donc ça va être extrêmement difficile, effectivement, d'y retourner. Donc, il y aura une première phase, effectivement, où il faudra d'abord restaurer les destructions qu'on aura pu observer, et puis déminer les terrains avant de pouvoir y retourner, si tant est qu'on puisse y retourner, puisque on verra qu'en France, il y a des terrains qui sont actuellement condamnés pour toute recherche archéologique.
Gilles Prilot, l'expérience peut servir justement dans tous les cas de figure possibles?
Bien entendu, même si on arrive parfois dans des impasses. Rappelons-nous que sur le front d'Ouest, dans toutes ces régions du Hauts-de-France et du Grand Est de la France, les démineurs traitent tous les ans entre 300 et 500 tonnes de munitions, tous les ans. Il faudra environ 8 siècles pour dépolluer le Pas-de-Calais, pour une guerre qui a 100 ans. Donc j'imagine, avec des engins explosifs modernes, extrêmement beaucoup plus dangereux comme au Yémen, la difficulté sera beaucoup plus grande.
Et bien justement, autour de ce sujet, un extrait d'Apocalypse Verdun.
21 février 1916, le soleil est revenu. La grande offensive allemande, qui doit changer le cours de la guerre, se déchaîne. Un orage d'acier, une tornade de feu s'abattent pendant 10 heures. 1291 canons tirent 1 million d'obus sur 20 km de front et ravagent toute la zone du Bois des Corps. 22 février 1916, à 5h du matin, les chasseurs de Drian subissent un nouveau pilonnage allemand, aussi violent, mais avec en plus des obus à gaz. Asphyxiés, submergés, les défenseurs ne peuvent plus arrêter l'avance allemande.
Voilà, Apocalypse Verdun, diffusé sur France 2 en 2016, la voix de Mathieu Kassovitz. Alors évidemment, bien longtemps plus tard, Gilles Prilot, des archéologues sont sur place, à Verdun ou ailleurs, hein, comme dans les Hauts-de-France, pour faire leur travail dans des conditions dangereuses et difficiles, on le disait tout à l'heure.
Oui, alors les archéologues ne sont pas des têtes brûlées. Il y a tout un dispositif quand même qui permet aujourd'hui en France de pouvoir travailler en garantissant la sécurité des personnels.
Pour réduire les risques.
Bien sûr, c'est-à-dire formation des archéologues encadrés par les démineurs. C'est l'étude préalable de documents de cartographiques, notamment d'époque, photographie aérienne. Pour nous permettre d'avoir la température un petit peu de la dangerosité de certaines zones.
Ouais.
Puis, on a également comme dispositif la dépollution pyrotechnique, c'est-à-dire qu'on fait appel à des sociétés privées qui viennent et qui relèvent, font un relevage de munitions afin qu'on puisse travailler dans les meilleures conditions possibles.
Voilà. Et quand on dépasse les obstacles, évidemment, on peut travailler réellement, faire des découvertes importantes et aussi révéler la vie quotidienne des soldats à cette époque. Hein.
Exactement, ça fait vraiment partie des thématiques vraiment intéressantes en dehors de ce qu'on a découvert autour de la gestion de la mort de masse, hein, 700 000 corps qui sont encore enfouis sur le champ de bataille, mais il y a aussi tout ce quotidien qui est assez peu raconté dans les récits historiques, comment on gère les poubelles, comment on gère les latrines, ce quotidien. Et donc par l'archéologie, on arrive à avoir des éclairages nouveaux et fort intéressants.
Ouais, cette découverte que vous avez réalisée de graffiti et bas-reliefs de la Grande Guerre, d'abord on a du mal à imaginer que personne n'était tombé dessus avant vous ou s'y était vraiment intéressé. Comment ça s'est passé alors?
Alors, le point de départ, c'est il y a 4 ans, 2014, je fais une petite intervention dans la cité souterraine de Naour, qui est un lieu qui a été aménagé par les hommes au XVIIe siècle, lors des guerres de religion et la guerre de 30 ans. Mmh. Et mon but était de préciser la datation de ce site. Et un jour, j'ai simplement l'idée d'éclairer les parois à la recherche de traces laissées par ces occupants du XVIIe siècle. Et puis là, c'est un véritable choc, c'est-à-dire que les murs sont couverts d'inscriptions écrites au crayon de bois, c'est tout petit, c'est 4-5 cm de côté, avec énormément d'informations. Plus de 3200 traces dans la cité souterraine de Naour, essentiellement australienne. Et ces hommes venant du bout du monde, sachant que demain c'est la bataille de la Somme, la plupart vont aller se feront tuer à Pozières ou à Mouquet's Farm, eh bien, veulent graver dans la pierre ce message: je suis passé ici, rappelez-vous que je suis passé là. Donc, alors, beaucoup d'informations, numéro de régiment, de bataillon, l'adresse postale parfois, donc une typologie vraiment très particulière qui permet de passer derrière le miroir, c'est-à-dire que au-delà du simple inventaire de la trace, on arrive à identifier ces soldats, refaire leur parcours de vie jusqu'à traverser l'océan et retrouver leur famille et leurs descendants qui font le voyage inverse.
Mais justement, on va écouter un reportage où on va entendre un petit peu votre voix et vos coéquipiers précisément pour remettre la main sur d'anciens soldats. Ça fait l'objet d'un documentaire sur France 3 en 2016, donc dans les souterrains de Naour.
Sans sa torche, cet archéologue n'aurait jamais fait sa découverte dans cette cité souterraine. 2 kilomètres de carrière de craie, pendant plus de 300 ans, ont servi de cache pour les biens des habitants en période de trouble. Mais avant Gilles Prilot, personne n'avait prêté attention aux marques étranges qui recouvrent les murs. Un nom, un matricule, une date. Près de 3000 graffitis de la Première Guerre mondiale, laissés en majorité par des Australiens, engagés dans la bataille de la Somme.
Vous voyez, regardez, de toute cette série de noms là. Là, tu vois, on a le matricule.
Danilo.
Alors, Danilo.
Pour répertorier tous ces noms, Gilles Prilot s'est entouré de collégiens. L'occasion pour eux de jouer aux archéologues.
22 janvier 1916.
Ces collégiens recherchent une trace de leur héros dans les archives militaires australiennes disponibles sur Internet.
Il est hospitalisé en Égypte. En octobre, le 2 octobre 1917.
Ça donne envie de continuer de rechercher, de savoir plus de choses, savoir comment était sa famille.
Et ton but, c'est quoi? C'est de retrouver
Sa famille.
L'archéologue et les collégiens ont déjà identifié une centaine de soldats.
Voilà, vous avez fait un travail étonnant, parce que ce sont des journaux intimes, au fond, hein, ces murs. Hein.
Oui, complètement. Et l'exemple de Naour est vraiment très particulier, puisque lorsque j'ai réussi à récupérer des diaries, des journaux de guerre de ces soldats, Un jour, c'est également un autre choc lorsque je découvre que ces soldats australiens sont venus visiter Naour, en fait, comme de simples touristes. On est à l'arrière du front. Donc, on fait mention de guides, de navettes qui amenaient ces soldats visiter pendant quelques heures, de faire un break, de take a break pendant quelques heures. Et donc, ça, c'était vraiment très particulier. Ça a été le départ d'un autre niveau dans ma démarche. C'était d'aller explorer d'autres lieux souterrains qui étaient connus pour leurs traces, et d'essayer de comparer comment les hommes, en fonction de leur nationalité, de leur culture, se comportaient avec la trace. Comment les Allemands gèrent la trace, les Américains, les Canadiens, les Français. Et là, c'est tout l'objet en fait, du livre présenté aujourd'hui.
Patrice demande, quand vous travaillez dans la zone rouge du département de la Meuse, est-ce que, par exemple, vous munissez de l'équipement de déminage, et que deviennent les objets que vous trouvez? Où sont-ils exposés ensuite?
Alors, on ne peut pas... D'abord, la première question, effectivement, il y a certaines zones pour lesquelles on n'intervient pas dans les zones rouges, notamment parce que les sols sont très pollués, à Spincourt notamment, dans la forêt de Spincourt, il y a un taux d'arsenic extrêmement élevé, donc on ne peut pas envisager d'intervenir dans des zones comme celle-ci. Et pour le stockage de ces mobiliers de la Grande Guerre, on ne peut pas tout conserver, parce que les musées seraient complètement asphyxiés de ces réserves. Il faut imaginer des milliers de kilomètres de fils barbelés, de piquets, de tôles en tout genre. Donc, vous voyez, il faut faire une vraie sélection à la base sur le terrain. Et on ne stocke naturellement que des objets qui n'ont aucun danger potentiel. Aucune munition n'est stockée dans les réserves de musées, par exemple.
Allez, l'archéologie de la guerre, notre thème cet après-midi dans la tête au carré, et vos messages sur franceinter.fr.
Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis, ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hachiches fumeurs. Joli petit sein de mon ami, et là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Il a vu l'espace qui passe entre la jet set, les faces, les palaces, et puis les techniciens de surface. Espère dans les clochers, les monastères, voir le vieux sergent Pépère, mais ce n'est que Richard Gere. Il est entré comme un insecte sur site internet, voir les gens des sectes, et il a dit la vie ne vaut rien, rien, la vie ne vaut rien. Quand je tiens, tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie, rien, 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 rien ne vaut la vie.
Alain Souchon sur France Inter.
La tête au carré.
L'archéologie de la guerre avec Jérémy Chitquette, on a parlé avec lui tout à l'heure du Yémen, et puis Gilles Prilot, archéologue, pour parler de la Grande Guerre et de ses graffitis, ses bas-reliefs qui font l'objet d'un livre autour des archives souterraines des combattants, livre de souvenirs qui paraît chez INRAP et Michelon. Qu'est-ce que racontent ces graffitis? Alors c'est quasiment une bande dessinée aussi, hein, de la vie des soldats. de l'époque.
Oui, c'est vraiment très varié. Hein. Ouais. Ça va d'un simple numéro de régiment jusqu'à des œuvres extrêmement élaborées. Ouais.
Il y a des gravures dans la pierre aussi, d'ailleurs.
Hein. Il y a des bas-reliefs de très grande qualité, hein, notamment dans une carrière à Neuville-Saint-Vaast où des Canadiens, un tailleur de pierre canadien, a reproduit très fidèlement les badges des régiments qui étaient présents ici. Et c'est souvent, on veut graver dans la pierre le souvenir de son passage. C'est vraiment ce qui ressort, en dehors peut-être des Allemands qui ont vraiment une autre démarche. C'est une signalétique extrêmement efficace vers les cuisines, vers les tranchées, des devises patriotiques en lettres gothiques. Nous, peuple allemand, ne craignons rien en dehors de Dieu. Des choses comme ça. Côté français, on est à la maison. Ouais. Donc on n'a pas forcément cette envie et ce besoin. On ne ressent pas forcément le besoin de marquer dans la pierre le souvenir de son passage, puisqu'on est, à la maison.
Les Australiens, qu'est-ce qu'ils indiquent sur les murs ?
Beaucoup d'informations, leur adresse, leur ville de naissance, leur grade, numéro de bataillon. Avec ces éléments, on peut les identifier avec certitude. Donc c'est vraiment important ce point, puisque de faire ça, c'est vraiment la volonté de dire « je suis passé ici et je veux qu'on s'en souvienne
». Vous avez identifié certaines familles justement de ces soldats ?
Oui, alors ça c'est vraiment très émouvant.
J'imagine.
Parce que j'ai parfois l'impression de reprendre le crayon de bois qu'ils ont laissé, de prolonger ce trait. Et quand j'ai un contact avec les descendants, quand ces descendants me disent « nous venons en juillet de Brisbane pour voir cette trace laissée par notre ancêtre », il faut se rappeler que la nation australienne se fonde avec la Première Guerre mondiale. Leur histoire commence là. Alors, dans ces traces, il y a vraiment beaucoup de vie, en fait. C'est ça qui m'intéresse vraiment beaucoup, de tous ces parcours de soldats, ces parcours de vie. C'est aussi une façon d'aborder la guerre d'une façon un peu moins...
Oui, c'est très vivant. C'est très vivant, là, finalement. On a l'impression d'avoir une photographie, un moment qui est là, présent, avec ces témoignages qui sont effectivement extrêmement émouvants.
Oui, et puis j'ai vraiment l'impression de les connaître de mieux en mieux, pour certains. Hein. Donc, et c'est ça qui est vraiment très, très, très particulier dans cette démarche.
On voit ces gravures de femmes aussi, hein, qui sont très belle, parce qu'il y a aussi des choses de l'ordre de l'intime, et c'est d'ailleurs que ça, quasiment. Hein, mais...
Oui. Alors chez les Anglo-Saxons, c'est toujours très prude, plutôt des silhouettes.
Les Français, ils vont plus franco.
Les Français se lâchent un peu plus, effectivement.
Qu'est-ce qu'on produit alors comme sculpture, comme gravure plutôt, dans ces parois ?
Eh bien, on peut avoir de véritables œuvres. Il y a Marius Corpé dans cette carrière à Machemont, qui est un ténor à l'Opéra de Paris, qui lui va montrer un petit peu tout son art en produisant des œuvres très très, très belles. Hein. Le lion terrassant le monstre allemand, une bête hybride avec un casque à pointe, une bête hideuse un petit peu. Donc il y a toutes des choses comme ça très travaillées, jusqu'à des témoignages vraiment extrêmement simplistes des soldats avec un peu moins de culture, un peu moins de... mais qui essaie par effet de mimétisme d'imiter les collègues.
Il y a urgence à faire l'inventaire justement de ces graffitis et bas-reliefs.
Alors là, je rejoins mon collègue sur la nécessité et l'urgence de ce patrimoine en danger. Alors, les sites sont innombrables, les traces sont innombrables. La roche calcaire est en érosion et n'aime pas beaucoup l'humidité. Que restera-t-il de tout ce patrimoine quand on fêtera le bicentenaire de la Grande Guerre ? Plus grand-chose, je le crains. Mm-hmm. Alors aujourd'hui, avec Somme Patrimoine et grâce au soutien très fort de la mission centenaire, nous développons un programme de modélisation 3D photogrammétrique à l'échelle de plusieurs cavités souterraines qui permet au moins de garantir une archive pérenne, un instant T de ces sites. Et puis il y a le vieil adage chez les archéologues, une fouille non publiée est une fouille qui n'existe pas. À travers cette publication chez Michalon, eh bien au moins on montre également, on grave dans le marbre, dans le papier.
Dans le papier pour l'instant, mais c'est déjà pas mal effectivement, parce qu'il y a des actes de vandalisme très clairement autour de ces œuvres, parce qu'on a envie de parler d'œuvres artistiques aussi quand même. Hein.
Et ça c'est terrifiant quand on se trouve devant une paroi richement sculptée qui est dénudés ou des personnes sans scrupules sont venues avec des disqueuses ou des scies et emporter des blocs sculptés complets. Là, on n'a plus aucune trace, on ne sait pas ce qu'il y avait derrière.
Ce réseau de souterrains, il représente quoi en superficie exactement ?
Ah, ce sont des centaines de sites et avec notamment les grandes carrières sur le chemin des dames qui peuvent dépasser 80-100 hectares sous terre. C'est des sites où je vous emmène et en deux minutes, on se perd tous les deux si on n'a pas un guide. C'est vraiment des lieux très 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 étendue. Merci beaucoup Gilles Prilot et Jérémy Chitkat. Gilles Prilot, donc, c'est ce livre Graffiti et bas-reliefs de la Grande Guerre, avec ses archives souterraines de combattants et ses photos de Dominique Bossu, paru chez Inrap Michelon. Et puis Jérémy Chitkat, est-ce qu'on trouve toujours votre ouvrage sur le Yémen?
Toujours.
Terre d'archéologie, c'est un livre que vous aviez publié en 2016 aux éditions Goetner avec Guillaume Charlot. Merci à tous les deux d'être venus cet après-midi.
Merci beaucoup.
Dans la tête au carré.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et avant la sortie en salle demain de Jurassic World Fallen Kingdom, France 5 vous propose ce soir dans Science Grand Format ce documentaire La Vérité sur le T-Rex. Bonjour Alice Delvalle.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue à vous. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur le Tyrannosaure Rex ce soir exactement?
Alors, eh bien, on va apprendre que son apparence et que son comportement étaient finalement assez différents de ce que nous font croire les blockbusters. On reconstitue ce dinosaure mythique en chair et en os avec des paléontologues et on redonne au T-Rex son vrai visage. Alors, le T-Rex fascine toujours, mais il n'a pas bonne réputation. On l'imagine comme une machine à tuer avec une cervelle d'oiseau, sauf qu'en fait, c'est un animal beaucoup plus complexe et évolué que ça.
Alors, quelques exemples, justement, de ce qu'on va pouvoir découvrir ce soir.
Alors, par exemple, le T-Rex a des dents très impressionnantes, mais elle ne coupe pas. C'est sa puissante mâchoire qu'il utilise pour broyer ses proies. C'est le plus grand prédateur de la préhistoire, il est très agile pour chasser, et on se rend compte qu'il a des sens surdimensionnés, un super odorat, une excellente vue. Et au niveau de son apparence, on a aujourd'hui la preuve que sa queue ne touchait pas le sol.
Et voici justement un extrait de ce documentaire.
Dans le parc d'État de Dinosaur Valley au Texas, Glenn Cuban examine des empreintes de dinosaures qui ressemblent beaucoup à celles du tyrannosaure. Le chercheur consacre sa vie à suivre leurs traces.
Il y a 112 millions d'années, ce n'était pas le lit d'une rivière, mais un gigantesque banc de vase. Et quand la marée se retirait, il y avait de la boue sur des kilomètres. Quand elles sont humides, juste après la pluie, on jurerait que ce sont des traces fraîches. Faute de pouvoir voir les dinosaures en vrai, je me contente de leurs empreintes.
Les empreintes sont incroyablement bien conservées. Mais le plus frappant, c'est l'absence totale de traces de queue.
Alice Delvalle, est-ce que ça nous donne un indice sur la véritable posture du T-Rex, justement?
Oui, tout à fait, Mathieu. On comprend que le T-Rex ne pouvait pas se tenir dressé sur ses pattes arrière, contrairement à ce qu'on imagine, mais en fait, il avançait la tête penchée en avant, à l'horizontale.
Et on découvre aussi quel était son comportement social, hein?
Oui, tout à fait, notamment grâce à une découverte récente au Canada, où on a retrouvé un dépôt d'ossements conséquent qui nous indique que les tyrannosaures vivaient en groupe, en famille, et qu'ils chassaient probablement en meute comme les lions le font aujourd'hui.
Voilà, donc c'est ce qu'on verra ce soir dans ce documentaire, La Vérité sur le T-Rex, sur France 5, 20h50 dans la case Science Grand Format. Et puis on pourra également prolonger l'expérience et approcher de près un tyrannosaure à l'occasion de cette exposition Un T-Rex à Paris, qui commence également demain au Jardin des Plantes et qui présente un des rares spécimens retrouvés vieux de 65 millions d'années. Et puis en deuxième partie de soirée, donc toujours ce soir sur France 5, Science Grand Format s'intéressera aux extinctions massives. Alice Delvalle, merci beaucoup et à très bientôt.
Au revoir.
C'est terminé pour notre tête au carré. Merci à Pauline Laverdure et Raphaël Rousseau qui étaient aujourd'hui à la technique. Demain, dans les mercredis psy et philo, un dossier consacré à la schizophrénie.